Le 23 septembre 1940, un convoi franco-britannique arrive devant le port de Dakar, en Afrique occidentale française. Aux côtés du paquebot Western Land, qui transporte le général de Gaulle et 2400 soldats de la France libre, on compte des cargos, des cuirassés, des torpilleurs, deux transports de troupes, une flotte destinée à impressionner le gouverneur Boisson, un fidèle du maréchal Pétain. Cela fait plus de 3 semaines que le général attend cette heure, depuis qu'il a quitté le port de Liverpool pour cette mission ultra-secrète baptisée Menace. 3 semaines qu'il rêve du moment où les habitants de Dakar verront se découper sur la baie les silhouettes massives des vaisseaux de la France résistante. Il rêve que sous un soleil accablant, les Français de l'Empire l'acclameront, lui, de Gaulle, l'homme de l'appel du 18 juin. Il rêve que Dakar se ralliera à sa cause. Tout a été préparé avec soin. Dans la nuit, les avions britanniques ont largué des tracts invitant la population à rejoindre la France libre. Et on a aussi prévu de diffuser un message à la radio tout l'après-midi. Mais le jour J, rien ne se passe comme prévu. D'abord, la météo est atroce. Un épais brouillard empêche de voir la côte. Deux émissaires de De Gaulle tentent d'accoster pour remettre une lettre au gouverneur Boisson. On fait tirer sur eux la canonnade. En réaction, les Français et les Britanniques bombardent le port de Dakar. De Gaulle assiste au spectacle désastreux d'une guerre civile. Des Français tirent sur d'autres Français. L'opération est interrompue et le général est au désespoir.
Les jours qui suivirent me furent cruels. J'éprouvais les impressions d'un homme dont un séisme secoue brutalement la maison et qui reçoit sur la tête la pluie de tuiles tombant d'un toit.
On l'appelle l'homme providentiel, ou encore l'homme du 18 juin. Mais avant de devenir le grand Charles, il fut à peu près personne. En 5 mois de l'année 1940, le mythe de Gaulle s'est forgé à coups d'appels à la radio et d'audacieux coups militaires. Voici comment Charles est devenu le grand de Gaulle.
Le gouvernement de Bordeaux avait choisi la capitulation. La France.
C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Vive la France, libre.
Parjure et traître à la fois, a trahi sa patrie.
Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude.
Charles et De Gaulle. Ça m'intéresse, histoire, vous raconte comment un homme seul est devenu le héros de la France libre.
Le 18 juin 40, c'est un parfait inconnu qui s'installe au micro de la BBC. Il est seul dans sa cabine insonorisée. Derrière la vitre, un technicien lui demande de faire un essai de voix. Il lance « la France » avec emphase. L'obscur général espère toucher le cœur des Français. Son discours dure à peine 3 minutes et n'est même pas enregistré. Nous n'en connaissons aujourd'hui que des retranscriptions. C'est un appel d'urgence, une bouteille à la mer.
Nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui vous dis que rien n'est perdu pour la France.
L'homme qui parle s'appelle Charles de Gaulle et rares sont ceux qui le connaissent. Il doit encore épeler son patronyme à ses interlocuteurs. C'est G-A-U-L-L-E, avec 2 L. Mais les journalistes pensent que ça s'écrit avec un seul L, comme la Gaule. Pour les auditeurs aussi, ce nom sonne comme un pseudonyme un peu bizarre. L'écrivain Romain Gary, futur prix Goncourt, a 26 ans quand il entend De Gaulle à la BBC. Né à Vilnius, il se cherche un pseudo bien français pour passer à la postérité dans son pays d'adoption. Quand il entend celui du général rebelle, il bouillonne. Ma première réaction fut un mouvement de colère, parce que je n'avais pas songé à inventer ce beau nom 15 ans plus tôt. Charles de Gaulle, voilà qui aurait plu à ma mère, surtout si je l'avais écrit avec un seul L. Pourtant, l'appel du 18 juin est aujourd'hui considéré comme l'acte de naissance de la France libre. Charles de Gaulle a eu une formidable intuition. Homme de guerre et de lettres, il a senti que la radio lui permettrait de tisser un lien durable avec les Français. Aurélie Luneau, historienne spécialiste de Radio Londres.
En 1940, la radio est un média qui commence à devenir populaire, mais il n'y a que 6,5 millions de postes de radio en France pour une population de 40 millions. Donc tous les foyers ne sont pas équipés, il y a une écoute collective qui commence à se mettre en place, on va ou chez des amis ou on se rassemble parce que c'est un moment que l'on vit.
Au même moment, de l'autre côté de la Manche, Agnès Saint-Bert fuit l'avancée des troupes d'Hitler. Comme elle, ils sont 8 millions de Français à se diriger vers la Loire. On dit que les Allemands tuent, on dit qu'ils violent et qu'il faut les fuir à tout prix. À pied, en auto, à dos d'âne, en charrette, c'est l'exode. Parmi les déracinés, Agnès Saint-Bert est une historienne de l'art de 46 ans. Elle a quitté Paris le 7 juin. À hauteur de Blois, elle a assisté à une scène atroce. Dans la panique de la fuite, un camion militaire français a écrasé une jeune femme de 16 ans. Comme l'hôpital de la ville ne répond plus, la pauvre a dû être euthanasiée sur place au moyen d'une injection d'arsenic et de méthyle réalisée par le médecin du convoi militaire. Agnès Saint-Bert, future résistante, comprend ce jour-là que son armée en débâcle est en train de mener le peuple français vers l'abîme. Le soir du 18 juin, elle est trop harassée pour écouter la radio, mais le 20 juin, elle arrive chez sa cousine en Haute-Vienne où elle trouve un poste de radio.
L'aiguille est sur Londres. C'est l'émission française que le hasard me fait prendre. On annonce un appel d'un général français dont le nom m'échappe. D'une diction peu radiophonique, hachée, tranchante, le général demande aux Français de se regrouper autour de lui. Je revis. Un sentiment que je croyais mort pour toujours renaît en moi. L'espoir.
Pour comprendre, il faut un peu remonter le temps. Depuis 1933, en Allemagne, Hitler est au pouvoir. Il a installé un régime totalitaire, violent, antisémite et raciste. Le Führer rêve d'une grande Allemagne, Judenfrei, sans juifs, qui étendrait son empire sur toute l'Europe. En septembre 1939, les nazis envahissent la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 8 mois, c'est la drôle de guerre. Ni l'Allemagne, ni ses ennemis ne lancent les hostilités. Et puis, le 10 mai 40, les forces du Troisième Reich attaquent les Pays-Bas, la Belgique et la France. Soudain, la chronologie s'emballe. Les Pays-Bas capitulent le 14 mai, les blindés sont à Bruxelles le 17 mai, et le 20, ils sont dans la Somme. Les Stuka déferlent sur le nord de la France. Mais, n'ayez crainte, l'armée française tiendra bon. C'est ce qu'assurent les actualités au cinéma.
Soldats de France, garde chez nous, qui de toute votre vaillance allez une fois de plus écrire dans l'histoire ce que c'est que l'amour et la défense de l'honneur et de la liberté. Braves et bonnes gens de chez nous, qui dans tant de vos douces familles assemblez déjà les souvenirs et les transes de trois guerres. Regardez avec toute votre affection, avec toute votre confiance, ces jeunes et robustes soldats anglais, leur matériel, leurs armements magnifiques.
Malgré la propagande, les faits sont là, Hitler est le plus fort. Entre le 27 mai et le 4 juin, l'enfer s'abat sur Dunkerque. 200 000 soldats britanniques et 130 000 Français sont évacués vers l'Angleterre sous le feu ennemi. La France et l'Angleterre, les plus puissantes armées du monde, sont humiliées par le dictateur de Berlin. Voilà où en est l'armée tricolore quand un certain Charles de Gaulle est appelé au Conseil, l'équivalent du gouvernement, le 5 juin 40. À 49 ans, il est nommé sous-secrétaire d'État à la Défense nationale par le président du Conseil, Paul Reynaud. Vincent Giraudier est responsable de l'historial Charles de Gaulle, musée de l'armée.
Début juin, de Gaulle est aussi auréolé des quelques succès tactiques qu'il a menés à la tête de sa division. Ses batailles, Montcornet, Abbeville, vont contribuer à forger sa légende. Mais ce n'est pas l'ancien chef de la 4e DCR qui entre au gouvernement, mais bien l'homme qui propose depuis des années une autre politique de défense que celle qui est en train de nous mener au désastre. Il pense que cette guerre, qui est une guerre mécanique, va se jouer justement par au profit de celui qui pourra aligner le plus de chars, le plus d'avions.
Et face à la débâcle française, il ne pense qu'à une chose, poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie depuis le vaste empire français. Mais sa voix ne fait pas le poids. En tant que sous-secrétaire, il n'est même pas autorisé à assister au Conseil des ministres, auquel participent en revanche deux fortes personnalités, connues et aimées des Français, et tentées par l'armistice.
Ces hommes sont les deux grands poids lourds qui influencent l'exécutif à ce moment-là, à savoir donc le général Weygand et le maréchal Pétain, sont extrêmement connus des Français. Weygand est l'ancien bras droit de Foch, Pétain est l'homme qui passe pour ayant été le vainqueur de Verdun et qui passe pour ayant été le chef le plus soucieux et le plus respectueux du sang des soldats. Pétain est extrêmement respecté des anciens combattants qui estiment qu'il a été le grand chef militaire de 14-18 qui a le plus respecté le sang des poilus.
Mais en 1940, les héros sont fatigués.
Et il y a donc aussi le généralissime, le chef des armées, qui vient au Conseil des ministres dire que pour lui, la guerre est finie et qu'il faut cesser le combat. Et cesser le combat au moyen d'un armistice, c'est-à-dire au moyen d'une décision politique qui, comme en novembre 1918 pour l'armée allemande, sauve l'honneur de l'armée en mettant la responsabilité de la défaite sur le dos des politiques et des parlementaires.
À la place de la Concorde, défilent, après une période de manœuvre, certains éléments de l'armée d'occupation cantonnés sur le territoire de la place de Paris.
Et déjà, le 14 juin, la Wehrmacht défile sur les Champs-Élysées sous les yeux des Parisiens abasourdis. Pour éviter un bombardement, les autorités de la capitale ont signé un cessez-le-feu à 7h30 du matin et déclaré Paris ville ouverte. C'est le début de 4 années d'occupation.
Devant le Grand Palais, le général Schaumburg, commandant de la place de Paris, passe les troupes en revue.
Dès le premier jour, les nazis décrochent les drapeaux français des bâtiments publics et les remplacent par ceux du Troisième Reich. Sur l'Arc de Triomphe, ils déploient une immense croix gammée. Paris vit à l'heure allemande, et sur les ondes, la propagande nazie tente de séduire les Français. Aurélie Luneau.
C'est déjà un média de propagande et durant la drôle de guerre, les Allemands d'ailleurs utilisent ce média de propagande de manière camouflée. Hein. Ils vont mettre en place des postes noirs, donc ce sont des postes qui se présentent comme étant des postes français, émettant depuis la France, s'adressant aux Français. En réalité, ce sont des postes clandestins qui sont gérés par les Allemands et tout est orchestré pour diffuser une propagande qui va dans le sens du camp allemand. On relève par exemple la Voix de la Paix qui à un moment s'intitule Réveil de la France, c'est un poste nationaliste. Et il y aura également Radio Humanité qui lui se présente comme la radio du Parti communiste français. On pense aussi à la radio Radio Stuttgart, emblématique. Toutes ces radios-là forment une arme de guerre utilisée par les Allemands pour s'adresser aux Français. Essayer d'orienter, de peser sur l'opinion publique, retourner les esprits, provoquer un effet de panique, la confusion aussi.
À la mi-juin 40, la menace de la signature de l'armistice se précise. Weygand et Pétain ne semblent attendre que ça. L'été approche et la France est belle. De jeunes et beaux soldats allemands vont bientôt découvrir ce pays vaincu, offert. Ils admireront ses champs opulents, ils s'amuseront sur les plages de Normandie, feront des œillades aux Françaises timides, et arpenteront, comme des touristes en goguette, la majestueuse avenue de l'Opéra à Paris. Ils auront la beauté des vainqueurs. Le 14 juin, le gouvernement français fuit à Bordeaux. Le président de la République, Albert Lebrun, s'installe dans l'hôtel de préfecture et le président du conseil, Paul Reynaud, emménage dans l'hôtel du commandant de la 18e région militaire. La ville passe en quelques semaines de 300 000 habitants à 1 million. Les naufragés de l'Exode accourent de toutes parts. Les 4 000 ouvriers de l'usine Peugeot de Sochaux croisent les employés de la Banque de France qui transportent les réserves en devises, en or, en titres et en valeurs. Dans ce chaos indescriptible, le général de Gaulle ne perd pas son cap. Il connaît bien Pétain et Weygand, il les sait sensibles, eux aussi, à la beauté des vainqueurs. Nous sommes le 15 juin 40 et le général se rend auprès de Reynaud afin de le mettre en garde.
« Je me refuse à me soumettre à un armistice. Si vous restez ici, vous allez être submergé par la défaite. Il faut gagner Alger au plus vite. Y êtes-vous oui ou non décidé ?»
C'est un oui de Reynaud. Il envoie De Gaulle en mission à Londres pour chercher le concours des Anglais. Le 16 juin 40, il se trouve dans le bureau de Winston Churchill au 10 Downing Street. La tête enveloppée dans la fumée de son cigare, le Prime Minister écoute le général, de 16 ans son cadet, lui faire une proposition très audacieuse. Il présente un projet d'union franco-britannique, une sorte de fédération regroupant les deux pays sous un gouvernement et des institutions communes. Vincent Giraudier.
L'idée, assez saugrenue, il faut en convenir, n'était évidemment pas celle de Charles de Gaulle, mais elle émanait de Jean Monnet, qui était donc à l'époque chef de la mission d'achat franco-britannique, et de l'ambassadeur de France en Grande-Bretagne, Charles Corbin. Cette idée est suggérée donc à De Gaulle le 16 juin à son arrivée dans la capitale anglaise. Les Anglais en ont approuvé l'idée, et De Gaulle téléphone à Reynaud pour lui en faire part. En fait, on sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand le gouvernement français, donc auquel Charles de Gaulle appartient, mais dont il est absent puisqu'il se trouve à Londres, le gouvernement français est à ce moment-là en discussion, en réunion. La question est de savoir si on poursuit ou non la guerre. Et le projet d'union franco-britannique est balayé d'un revers de main. Le maréchal Pétain déclare même « on ne fusionne pas avec un cadavre », à part que pour lui, à ce moment-là, le cadavre, c'est la Grande-Bretagne et pas la France.
De Gaulle, lui, n'entend évidemment pas la réaction du vieux maréchal. Il court attraper l'avion qui le ramènera à Bordeaux l'après-midi du 16 juin. Mais quand l'avion se pose à l'aéroport de Mérignac, à 21h30, il n'est déjà plus membre du gouvernement. De Gaulle apprend que Reynaud vient de démissionner et que Pétain a pris sa place à la présidence du Conseil. Les défaitistes sont au pouvoir. Il faut faire vite. De Gaulle se précipite dans le bureau de l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour lui dire qu'il veut retourner à Londres le plus vite possible. À présent, De Gaulle est un électron libre. C'est un militaire qui agit sans ordre, n'écoutant que sa conscience. Comme le destin de la France, sa vie est en train de basculer.
Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'a paru, d'un seul coup, claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'était à moi d'assumer la France.
Avant de partir, le 17 juin, à 7h du matin, De Gaulle se rend à l'hôtel Normandie de Bordeaux. Il y rencontre Reynaud. L'ex-président du Conseil est sonné, mais il espère encore la victoire française. Il lui fait remettre 100 000 francs pris sur les fonds secrets du gouvernement. De Gaulle retrouve ensuite son collaborateur, Jean Laurent. C'est lui qui lui remet les clés de son pied-à-terre londonien, un petit appartement où il écrira 24 heures plus tard le texte de l'appel du 18 juin. À 9h, dans un biplan à 4 places aux couleurs de la Royal Air Force, De Gaulle s'envole pour son destin. Il est accompagné par son aide-de-camp Geoffroy Chaudron de Courcelles et Spears, officier de liaison entre les gouvernements français et britannique. Alors qu'ils sont suspendus entre la France et l'Angleterre, le vieux maréchal lance à la radio française un appel à déposer les armes.
Ici Radio-Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
L'après-midi même, Churchill reçoit De Gaulle et Spears. Le grand général se tient raide, cigarette aux lèvres, sanglé dans son uniforme, avec ses longs bras, son air grave. Face à lui, Churchill est un gentleman rond, un animal politique aussi autoritaire que séducteur et qui sait agrémenter son discours de bons mots trouvés dans la langue de Molière. De Gaulle est beaucoup moins à l'aise. Son niveau d'anglais est médiocre, il est fatigué par ses allers-retours, mais il parvient malgré tout à convaincre le vieux lion de le laisser parler le soir du 18 juin sur la BBC, le service public de radio britannique. Aurélie Luneau.
Le fait qu'il intervienne si peu lui a permis de gagner en aura, parce que c'était un événement quand il prenait la parole. De la même façon que quand Winston Churchill prenait la parole, là aussi en France c'était un événement. Il sait que Radio Londres lui permet de toucher les cœurs et les esprits.
Ce 18 juin 40, De Gaulle devient le premier Français à s'opposer à l'idée d'armistice. Ce premier appel n'est pas enregistré, mais les principales idées se retrouvent dans l'appel du 22 juin, conservé à l'Institut National de l'Audiovisuel.
Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi ? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
Moi, général de Gaulle. En quelques mots, par sa voix caractéristique, l'officier de Gaulle se métamorphose. Il devient l'homme providentiel. Il entre dans l'histoire. Aurélie Luneau.
Le 18 juin, quand il prend la parole, c'est un homme qui est alors seul, isolé, un officier rebelle qu'on présentera comme félon en France, du côté de Vichy et du côté des Allemands. C'est une voix. Il sait comment utiliser les mots, il les martèle. Il utilise des phrases plutôt courtes. Tous les mots qu'il utilise sont vraiment là pour servir son message. Donc il est pour moi efficace dans l'exercice. Après, sa voix était une voix qui pouvait plaire à certains, mais qui ravissait d'autres auditeurs. Et il y a des auditeurs qui ont envoyé des lettres au service de la BBC pour dire « Demandez à tous vos speakers de parler comme le général de Gaulle. » Parce que le général de Gaulle avait une voix qui dépassait le brouillage. Et quand il va intervenir à plusieurs reprises, donc 67 fois finalement en plus de 4 ans, c'est pas beaucoup, mais à chaque fois c'est un événement.
Pour l'heure, l'horizon est bouché. Le lendemain de l'appel du 18 juin, De Gaulle est tout simplement privé d'antenne par les Britanniques. Quand il a envoyé au ministère des Affaires étrangères son texte pour relecture, le sous-secrétaire d'État Alexander Cadogan a accosté le ministre Lord Halifax. Il lui a dit que ça ne pouvait pas continuer, que le 10 Downing Street était devenu les coulisses d'un cirque où n'importe quel hurluberlu met le grappin sur le Premier ministre et prend des décisions foireuses. Décisions foireuses. Alors comme ça, l'appel du 18 juin est une décision foireuse ? La vérité, c'est que Londres se méfie de cet officier solitaire. Vincent Giraudier.
Le 18 juin, pour Londres, la priorité, c'est de ne pas rester seul face à Hitler. Mais la priorité absolue, la priorité vitale, c'est que si jamais il se retrouve malheureusement dans cette situation seul face à l'Allemagne, il faut au moins que l'Allemagne ne puisse pas disposer de la flotte française et de l'empire colonial français. Donc la priorité absolue les 17 et 18 juin et au-delà du gouvernement britannique, c'est de ménager le gouvernement français. Ménager le gouvernement français, parce que quand Pétain annonce le 17 juin qu'il sollicite l'armistice, il ne fait que solliciter l'armistice. Il ne sait pas si l'Allemagne va accepter de discuter. Il ne sait pas quelles seront les conditions imposées par l'Allemagne. Et il ne sait pas si elles seront acceptables. Et ces questions, le gouvernement britannique, lui aussi, se les pose. C'est pour ça que beaucoup de Britanniques sont extrêmement réticents à l'idée de laisser un ancien sous-secrétaire d'État s'exprimer et critiquer le gouvernement légitime de la France. Et c'est d'ailleurs uniquement quand on commencera, côté britannique, à connaître une grande partie des clauses de l'armistice, c'est-à-dire le 22 juin, que De Gaulle sera réautorisé à parler à la BBC.
Pour garder ce lien avec les Français de la métropole et de l'Empire, De Gaulle doit faire des concessions. Aurélie Luneau.
Mais il doit accepter la censure. Et ça, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que cette radio, elle est censurée. Pour beaucoup de Français, à l'époque, la BBC, Radio Londres, c'est De Gaulle. Mais pas du tout. C'est De Gaulle pendant 5 minutes, tous les jours, honneur et patrie. Mais le reste du temps, ce n'est plus De Gaulle. Et même quand on entend honneur et patrie, tous les textes, que ce soit ceux de la France libre ou ceux de l'équipe Les Français partout français, tous les textes sont visés par une censure. Les speakers, les journalistes, les commentateurs doivent tous déposer leurs textes au bureau des censeurs ou sur le bureau de la personne dont ils dépendent plusieurs heures avant la diffusion de l'antenne. Les textes sont lus, soit on demande des corrections, soit on laisse le texte tel quel. Et ensuite, au moment de la diffusion de l'émission, il y a ce qu'on appelle un switch censor, c'est un responsable de la bonne tenue des émissions, qui a le texte d'origine sous les yeux, et si on dévie, alors peut-être pas d'un mot, mais si on dévie d'une phrase, on rajoute ou d'un sens, il peut très bien couper le micro.
Après l'appel, à Londres, ça s'agite. Des expatriés français commencent à chercher ce mystérieux général. Ils vont se renseigner à l'ambassade de France, mais les fonctionnaires ont l'ordre de ne pas révéler l'adresse de De Gaulle. Parfois, le concierge lâche l'info. Ni vu ni connu. Mais le plus souvent, il faut se débrouiller. Tant bien que mal, les plus motivés arrivent au petit appartement de Seymour Grove, le pied-à-terre où loge De Gaulle. Il est forcé de les recevoir dans une chambre minuscule, envahie de papiers griffonnés.
Pour que l'effort en valût la peine, il fallait aboutir à remettre dans la guerre, non point seulement des Français, mais la France. Quant à moi, qui prétendais gravir une pareille pente, je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite.
Un événement va accélérer les choses. Le maréchal signe l'armistice avec les Allemands le soir du 22 juin. La moitié nord de la France et Paris sont occupés. Les Allemands prévoient la neutralisation de la flotte française en zone occupée, avec pour seule garantie la parole d'Hitler. Or, pour les Britanniques, c'était la ligne jaune à ne pas franchir. Ils craignent en effet que l'Allemagne utilise cette flotte contre eux. De Gaulle a maintenant le feu vert pour parler à la BBC. Dans son troisième appel, celui du 22 juin, il veut soulever les consciences. Il parle d'asservissement, de capitulation, et surtout, il emploie pour la première fois l'expression « France libre ».
J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
De Gaulle devient un traître pour la France de Pétain. Le 27 juin, le gouvernement français convoque De Gaulle pour répondre devant un tribunal militaire de l'accusation de trahison et de désertion. En réaction, le 28 juin, Churchill reconnaît officiellement Charles de Gaulle comme « chef de tous les Français libres, où qu'ils se trouvent ». Enfin, le 10 juillet, à Vichy, l'Assemblée nationale donne les pleins pouvoirs à Pétain qui se proclame le lendemain chef de l'État. Pour les Français de Londres, c'est l'heure des choix. Juillet 40, les volontaires affluent dans le nouveau QG de la France libre. Fini la minuscule chambre de Seymour Grove, De Gaulle et son équipe ont emménagé au 4 Carlton Gardens, une maison de ville comptant 70 bureaux sur 7 niveaux. On guette le général, Sa silhouette, immense, au détour d'un couloir, on tend l'oreille pour reconnaître la voix entendue dans le poste. Mais le général est ailleurs. Il parcourt la Grande-Bretagne à la recherche de recrues militaires pour la France libre. Hélas, il ne se bouscule pas. Des milliers de soldats français démobilisés se retrouvent outre-Manche après les défaites de Narvik, en Norvège, et de Dunkerque. De Gaulle va les visiter dans les stades et les camps militaires où ils attendent leur rapatriement. C'est au cours d'une de ces tournées que Daniel Cordier, le futur secrétaire de Jean Moulin, rencontre l'homme du 18 juin. Il écrira plus tard. Sous ses leggings, ses jambes trop longues semblent bien fragiles pour supporter un corps aussi massif. Il me fait penser à un héron. Je n'ai jamais vu de général en vrai. Ceux dont les journaux publient les portraits m'ont toujours paru vieux. De Gaulle, lui, est plus jeune, mais son aspect bizarre est accentué par sa voix aux intonations étranges. Sa visite a duré quelques minutes. Je demeure sur place, abasourdi. Désormais, mon chef est cet homme froid, distant, impénétrable, plutôt antipathique. Début juillet 40, sa France libre est un bateau à la dérive. Un assemblage hétéroclite de républicains espagnols, de réfugiés juifs d'Europe centrale, d'aristocrates en marge. Il y a aussi les 130 marins pêcheurs bretons de l'île de Sein qui ont rallié l'Angleterre à bord de 5 bateaux après avoir entendu De Gaulle à la radio le 22 juin. Les Anglais sont bien conscients que leur allié français manque de charme. Pour le rendre plus, disons, désirable aux yeux du public, ils vont utiliser les grosses ficelles du marketing. Vincent Giraudier.
Je dirais que, en fait, il était tellement peu de choses à l'été 1940 qu'il faut bien que la légende se constitue envers ou contre lui ou par lui. Je m'explique en fait. De Gaulle a toujours énormément respecté, veillé au respect de sa vie privée et de celle de sa famille. Il n'aura de fait toléré que 2 reportages qui violent son intimité familiale. Donc le deuxième, c'est le reportage concédé à Paris Match pour la parution de ses mémoires de guerre en 1954. Et le premier, c'est la série de reportages réalisée à l'été 1940 à l'initiative de Churchill pour présenter au peuple britannique, à l'opinion publique britannique, qui est ce total inconnu qui combat aux côtés du peuple britannique. Voilà. Et à ce moment-là, De Gaulle le prend très mal. Et il dit à Churchill, vous êtes en train de me vendre comme une savonnette, vous me lancez comme une savonnette. Et d'ailleurs, c'est un peu ça, puisque Churchill avait fait appel aux meilleurs publicitaires britanniques de l'époque pour lancer, entre guillemets, le produit Charles de Gaulle.
Je vais devenir folle si je ne fais pas quelque chose pour réagir.
Ce 6 août 1940, Agnès Imbert, l'historienne de l'art que nous avons croisée sur les routes de l'Exode, est de retour à Paris. Elle travaille en face de la Tour Eiffel, au Palais de Chaillot, au Musée des Arts et Traditions Populaires. C'est à deux pas de là qu'Hitler s'est fait photographier lors de sa visite éclair dans la capitale vaincue le 28 juin 40. Mais ce 6 août, Agnès Imbert découvre avec horreur un panneau qui indique que l'entrée est gratuite pour les soldats allemands. Elle se précipite dans le bureau de son patron, Jean Cassou.
Je dois faire quelque chose.
Lui aussi veut agir. Le seul remède est de nous grouper, une dizaine de camarades, pas plus. Nous rencontrer à jour fixe pour nous communiquer des nouvelles, rédiger et diffuser des tracts, donner des résumés de la radio française de Londres. C'est ainsi que naît le premier mouvement de résistance en zone occupée, le groupe du Musée de l'Homme. Ces mouvements de résistance sont la consécration de la stratégie de De Gaulle. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les appels de De Gaulle n'ont pas donné lieu à une fuite des cerveaux. Pas de grosses pointures politiques, pas d'intellectuels influents. C'est dans ce contexte décevant que les Français libres et les Britanniques vont se tourner vers un autre continent, l'Afrique. Et là, ça n'est pas la même musique.
En attendant, c'était en Afrique que nous, Français, devions poursuivre la lutte. Participer avec des forces des terres françaises à la bataille d'Afrique, c'était faire rentrer dans la guerre comme un morceau de la France. C'était défendre directement ses possessions contre l'ennemi. C'était, autant que possible, détourner l'Angleterre et peut-être un jour l'Amérique de la tentation de s'en assurer elles-mêmes pour leur combat et pour leur compte. C'était enfin arracher la France libre à l'exil et l'installer en toute souveraineté en territoire national.
Le message se diffuse dans l'Empire. L'Afrique équatoriale française coupe peu à peu les ponts avec Vichy. Ça commence avec le ralliement du Tchad. Puis, le 27 août, les Français libres prennent possession du Cameroun français au nom de De Gaulle. À Brazzaville, le gouverneur resté fidèle à Pétain est arrêté. Il aura fallu 3 jours, seulement 3 jours, pour que toute l'Afrique équatoriale française tombe aux mains de l'homme du 18 juin. Presque tout un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés vient de se rallier à la France libre sans même qu'une goutte de sang ne soit versée. Mais l'Afrique occidentale française, elle, reste fidèle à Vichy. C'est dans ce contexte qu'est montée l'opération Menace, une mission secrète destinée à prendre Dakar. Mais comme on l'a vu, l'expédition tourne au fiasco. Dans la baie de Dakar, la flotte franco-britannique affronte les forces françaises fidèles à Vichy. De Gaulle vit très mal cette scène de guerre civile qui fait 130 morts dans les deux camps.
Parjure et traître à la fois, l'homme qui se prétend le chef des Français libres vient de prouver que, prisonnier de ses premières imprudences, il n'est plus actuellement libre, si ce n'est de disposer de sa parole d'honneur.
6 tentatives de débarquement de l'escadre anglaise et du traître De Gaulle à Dakar et à Rufisque ont été repoussées par les forces françaises.
L'ex-général De Gaulle, par ambition et par intérêt, dès le premier jour a trahi sa patrie.
Nous préférons le vainqueur de Verdun au fuyard de Dakar.
Vincent Giraudier.
Les Anglais repartis, Charles de Gaulle débarque avec ses troupes dans les territoires qui lui sont fidèles et y met en place un gouvernement, le Conseil de défense de l'Empire, met en place les attributs d'un pouvoir régalien, y compris une décoration, l'Ordre de la Libération, créé à Brazzaville, en terre française, le 16 novembre 1940. Quand on lit le manifeste du 27 octobre 1940, une simple feuille et quelques lignes au verso, on voit bien que c'est le texte de quelqu'un qui se sent investi d'une légitimité qui le transcende. Pour lui, la France éternelle est celle qui se bat. Vichy est donc nul et illégitime. C'est De Gaulle qui assume la conduite de la guerre et il s'engage, en octobre 1940, à rendre compte de ses actes devant le peuple français le jour où celui-ci aura retrouvé la liberté.
Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant.
Après l'entrevue de Montoire sur le Loir entre Hitler et le maréchal Pétain, la collaboration démarre. Une idée insupportable pour De Gaulle. 11 jours plus tard, le 11 novembre 1940, place de l'Étoile, près de la tombe du soldat inconnu, les drapeaux tricolores ne sont pas de sortie, comme c'est le cas normalement en ce jour de commémoration. Vichy a interdit tout hommage à l'armistice de 1918. C'est un jour morne pour les patriotes. Mais à 17h, la place se couvre de 3000 braves, des lycéens et des étudiants, qui chantent la Marseillaise et crient « Vive De Gaulle! Vive la France !» Certains bravent l'occupant en brandissant 2 canapèches. Culottés, car pour les connaisseurs, le message est limpide. 2 canapèches, ce sont 2 Gaules. Soudain, des coups de feu éclatent. Des soldats allemands cachés dans un cinéma ont déboulé face à la foule. on tire sur la première manifestation de soutien à De Gaulle de l'histoire. Le lendemain, la presse collabo a beau décrire une manif de voyous aux ordres des juifs et des anglo-saxons, ce rassemblement a semé la graine de la révolte. En décembre 40, Agnès Imbert participe au premier numéro du journal du groupe du Musée de l'Homme. Son nom, Résistance.
De Gaulle aura toute notre sympathie respectueuse. Nous devons être prudents et connaître son idéal politique. Être circonspect pendant un temps en parlant de cette vieille ganache de maréchal. Beaucoup de gens n'ont pas encore ouvert les yeux. L'avenir se chargera de les éclairer.
Ça y est, De Gaulle est devenu le chef invisible mais omniprésent de la résistance. Une prière a même été inventée sur le modèle du Notre Père. Notre De Gaulle qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite. 5 mois se sont écoulés depuis l'entrée de De Gaulle en résistance. Il a été, pendant ces 5 mois, sous-secrétaire d'État, missi dominici, paria, français casse-pied en Angleterre, chef de guerre mal aimé au large de l'Afrique, et puis finalement, le voilà héros. Il acquiert sa stature définitive, celle de l'homme du 18 juin, envoyé par la Providence. Pris dans le tourbillon de l'histoire, il ne s'en rend même pas compte. Aujourd'hui, 80 ans après, l'appel du 18 juin dépasse le seul cadre de la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu le symbole de ceux qui veulent dire non.
C'est le début de la légende. Donc le 18 juin fait entrer De Gaulle dans l'histoire des grands hommes, les grandes voix, les discours qui ont fait l'histoire. Et ce discours qui lui-même est devenu mythique, symbolique, je pense qu'aujourd'hui c'est un discours qui traverse même les décennies. On voit que de génération en génération, eh bien, des jeunes gens ou des personnes s'en emparent pour défendre d'autres causes dans d'autres guerres. Par exemple, le 18 juin 1968, les étudiants du mouvement de ceux du 22 mars, hein, ces étudiants qui, depuis la fac de Nanterre, avec Daniel Cohn-Bendit à leur tête, avaient lancé ce mai 68 et le mouvement de la jeunesse en France, ce mouvement va récupérer la symbolique très forte de cet appel du 18 juin. Eux disent non à la société du moment. Et ils se battent à travers symboliquement les mots de l'appel et de l'affiche. Ils se battent pour obtenir une liberté pour une France qu'ils veulent autre pour demain. On peut dire que c'est un pied de nez, hein, et que c'est même une arme de dérision massive. Ensuite, on retrouve cet appel qui va être activé au moment de l'appel du 18 juin, dans les années 70, où il y a cette volonté d'une partie de la société aussi française et des consommateurs de cannabis de lancer cet appel pour qu'il y ait une libéralisation de la consommation du cannabis. Et puis, de façon plus fortement symbolique aujourd'hui, depuis 2016, hein, il y a une abeille du 18 juin qui est un appel en fait lancé par un syndicat d'apiculteurs pour sensibiliser à la défense de la biodiversité. L'abeille du 18 juin permet de montrer comment cet appel historique, emblématique, symbolique sert aujourd'hui d'autres causes qui sont, on peut le dire, les guerres du moment.
Dans le prochain épisode, nous explorerons les liens entre le maréchal Pétain et Charles de Gaulle. Presque tous les rassemblent. Ils sont militaires, ils ont combattu l'Allemagne pendant la Grande Guerre et se réclament d'un patriotisme acharné. De Gaulle a même travaillé avec Pétain dans les années 20. Mais en 1940, sur la BBC, il coupe définitivement les ponts avec son ancien mentor. Remontons aux racines de cette rupture.
Charles et l'appel du 18 juin 1940. Un épisode écrit par Cyril Lemoine-Tolba, raconté par Cyril Azouvi et réalisé par Lucas Vibo. Retrouvez le podcast Charles et De Gaulle sur vos plateformes d'écoute habituelles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. À bientôt !